Chapitre 12. Une triste veillée. La petite carriole s'arrêta au bas du sentier escarpé qui menait à Haytersbank. La pluie continuait plus drue que jamais, et le cocher recommanda de faire hâte, ne se souciant pas, disait-il, de risquer la vie de ses chevaux. Esther monta jusqu'à la ferme d'un pas rapide. Au moment de frapper, elle se sentit intimidée, songeant aux personnes inconnues qu'elle allait voir et aux délicats messages dont elle s'était chargée. Le premier coup se perdit dans le tumulte des éléments. Au second, le murmure de voix féminine qu'elle avait entendu à l'intérieur de la maison cessa brusquement, et quelqu'un vint en courant ouvrir la porte. C'était Sylvia. Esther ne manqua pas de la reconnaître, bien que le visage de la jeune fille fût resté dans l'ombre. Mais celle-ci ne pouvait démêler les traits d'Esther, ni sa taille, ni sa tournure, sous les nombreux vêtements dont elle était enveloppée. D'ailleurs, elle n'éprouvait à ce sujet ni le moindre souci, ni la moindre curiosité. D'une voix altérée par le chagrin et avec une brusquerie laconique, « Passez votre chemin, » dit-elle. « Ce n'est pas une maison où les étrangers puissent être admis. Nous avons en ce moment trop d'affaires sur les bras. » Puis, sans laisser à Esther le temps de s'expliquer, elle lui jeta la porte au visage. Par bonheur, tandis que la messagère de Philippe cherchait en vain comment elle pourrait se faire ouvrir cette porte inexorable, une autre voix s'éleva, plus compatissante et plus douce. Les verrous furent tirés une seconde fois, une main s'étendit, pareille à celle qui attira la colombe dans l'arche, et suivant l'impulsion de cette main, Esther se trouva bientôt dans l'âtre au coin duquel était assise la pauvre belle. « Il ne faut pas, disait celle-ci, que le chagrin endurcisse nos cœurs. « Pardonnez-moi, madame, » s'adressant à Esther. « Aujourd'hui même, une grande affliction est tombée sur nous. Nos pleurs, nos lamentations nous ont tout à fait changés. Veuillez nous excuser et nous plaindre. » Là-dessus, Belle cacha sa tête dans son tablier, comme pour épargner à l'étrangère la vue de ses yeux rougis et gonflés par les larmes. Sylvia, dont la première impatience n'était qu'à moitié calmée et qui regardait encore avec un certain mécontentement la personne introduite en dépit d'elle, s'était agenouillée au pied de sa mère et la tenait fortement embrassée, celle-ci tout à coup abaissant son tablier. « Vous avez froid, vous êtes mouillée, » reprit-elle. « Approchez du feu, séchez-vous. Vous savez peut-être ce que c'est d'avoir tant à penser. Excusez-nous, je vous prie. » « Merci, merci de vos bontés, » dit Esther, que touchaient profondément les efforts de la vieille femme pour faire prévaloir sur les inspirations de sa douleur celle d'une généreuse hospitalité. Puis elle se nomma et fit sommairement connaître l'objet de sa mission. Avant même qu'elle eût achevé de parler, Belle était sur pied, cherchant à la hâte tout ce qu'il lui fallait pour se mettre en route. Sylvia, moins confiante, s'était mise à questionner Esther. « Dans quel but ? » demanda-t-elle. « Mon père doit-il faire le voyage d'York ? Pourquoi Philippe nous a-t-il quittés? Pourquoi n'est-il pas venu lui-même? » Esther, en réponse à cette dernière question, donna fort exactement les explications qui lui avaient été dictées, mais il lui semblait étrange qu'on se méfiât de Philippe et qu'on hésitât si longtemps lorsqu'il conseillait de se hâter. Sa surprise, probablement, se trahit par quelques paroles, car Sylvia lui répondit avec une sorte de cri d'angoisse. « Peut-être, disait-elle. Peut-être vous ai-je fait des questions étranges, peut-être me trouvez-vous mal apprise et m'accusez-vous d'impolitesse. Mais vos réponses, sachez-le bien, ne m'importent guère. Je n'ai d'autre souci que de revoir ici mon pauvre père. À peine sais-je ce que je dis, et bien moins encore pourquoi je le dis. La patience de ma mère me met hors de moi. Mais voyons, dites, quand il aura lui-même expliqué ce qu'il a fait, on nous le renverra, n'est-il pas vrai ? » Elle avait pris tout à coup un ton suppliant, comme si la décision relative à son père dépendait d'Esther elle-même. Celle-ci, pour toute réponse, secoua la tête. Sylvia vint alors près d'elle, et lui prenant les mains qu'elle caressait presque. « York Castle, » lui disait-elle. « On y envoie les voleurs et les bandits, mais un honnête homme tel que mon père. » Esther posa sa main sur l'épaule de Sylvia par un mouvement affectueux et doux. « Philippe vous dira ce qui en est. » répondit-elle, usant de ce nom comme d'une sorte de charme. Et pour elle, en effet, il avait des vertus magiques. « Venez trouver Philippe, » reprit-elle encore, insistant pour le départ. Et Sylvia, qu'elle avait enfin persuadée, se mit à se préparer en se disant à part elle. Allons voir mon père. C'est lui qui me dira tout. » Et elle ajouta, au moment de se mettre en route, se tournant vers Esther, « Tu es une bonne fille, en somme. Auprès de ma mère, tu vaudrais bien mieux que moi. Je ne suis qu'un embarras, une charge, et depuis quelque temps, il semble que je ne puisse servir à rien, ni à personne. » Ce n'était pas le moment de démontrer à Sylvia qu'elle se trompait. Esther se contenta donc de la suppléer auprès de Belle Robson, à qui elle prodigua tous les soins de la plus tendre fille. Sylvia ne fit que frissonner et pleurer tout le temps de la route. Elle ne parlait, elle ne s'inquiétait que de son père. Quand elles arrivèrent à la porte de Philippe, cette porte s'ouvrit d'elle-même avant qu'elles ne fussent descendues. Quelqu'un, bien évidemment, les guettait de loin. Phoebe, l'ancienne domestique, une des dépendances de la maison où elle servait depuis plus de 20 ans, sortit dans la rue, tenant à la main un flambeau qu'elle protégeait de son mieux contre le vent, tandis que Philippe aidait Mistress Robson à descendre par le fond de la voiture. Esther, sur le devant, montée la dernière, devait être la première à sortir. Au moment où elle se levait, elle sentit sur son bras se poser la petite main de Sylvia. « Croyez bien, lui disait celle-ci, que je vous suis reconnaissante. Je vous prie de me pardonner la dureté de mon langage. Mais voyez-vous, ces craintes au sujet de mon père m'ont vraiment brisé le cœur. » Ces mots furent prononcés avec un accent si plaintif, si imprégné de larmes, qu'Esther ne put s'empêcher d'être émue. Elle se pencha vers Sylvia, lui baisa la joue, et descendit ensuite, sans trouver aucune assistance du côté que personne ne songeait à éclairer. Philippe, pour qui elle venait d'accomplir cette rude mission, pensait à tout autre chose qu'à l'en remercier. En regardant derrière elle, au moment de tourner le coin de la rue, elle le vit s'apprêtant à recevoir dans ses bras Sylvia, suspendue encore au bord de la roue. Ils entrèrent ensuite dans cette maison éclairée, attiédie pour la recevoir. La carriole repartit lestement, jetant à droite et à gauche la clarté de ses deux lanternes, et à travers les froides ténèbres, sous la pluie qui tombait à torrents, Esther s'en retourna chez elle, le cœur plus las, plus attristé qu'elle n'eût voulu se l'avouer à elle-même. Malgré ses appréhensions pour le compte de Daniel Robson, malgré la chaleureuse sympathie qu'il accordait au chagrin de Sylvia et de sa mère, Philippe ne pouvait s'empêcher de pratiquer avec une joie secrète, à l'égard de sa bien-aimée, les rites hospitaliers. Au grand regret de Phoebe, il avait déployé ce jour-là un luxe qui ne lui était pas habituel. La cheminée flambait, deux longues bougies, ou plutôt deux cierges, brûlaient simultanément sur la table, mais ni l'une ni l'autre de ces deux hôtesses ne prenaient garde à tous ces apprêts. Belle Robson, malgré sa fatigue, voulait sans retard aller trouver Daniel, et on eut grande peine à lui faire comprendre qu'elle ne serait pas admise à pareille heure dans la geôle municipale. Comme elle insistait malgré tout pour qu'on fît passer à son mari l'écharpe de flanelle indispensable à ses rhumatismes, Philippe, toujours complaisant, se chargea de la commission. Et c'était là de sa part un grand sacrifice, dans ce moment où la présence de Sylvia chez lui, comblant les plus chers de ses vœux, donnait son prix à chaque minute. Quand il revint, il trouva Sylvia, qui, victorieuse à grand-peine de quelques scrupules hospitaliers, s'était décidée à préparer le thé de sa mère. Ce fut là une grande joie, saluée comme un heureux présage par le maître de la maison. Mais la jeune fille était triste, agitée. Lorsqu'elle eut décidé Belle Robson à se mettre au lit, elle descendit auprès de son cousin, à qui tout d'abord elle n'adressa pas la parole. Pour lui, l'examinant à la dérobée, il voyait de grosses larmes couler le long de ses joues, sans qu'elle songeât le moins du monde à les étancher avec le coin de son tablier. « Philippe, lui dit-elle enfin, le regardant tout à coup au visage, ne le délivreront-ils pas bientôt? Et mettant les choses au pis, que peuvent-ils bien lui faire ?» C'était là précisément la question qu'il redoutait le plus. Aussi, ne se pressa-t-il pas d'y répondre. « Parle donc, parle !» reprit-elle avec impétuosité. « Je vois bien que tu sais à quoi t'en tenir. » Il fallait s'exécuter, et sans délai. Ses réflexions ne lui fournissaient rien de mieux. « Il est, dit-il, accusé de félonie. »« De félonie ? » reprit-elle. « Il faut lui en vouloir beaucoup pour se servir de pareils mots en ce qui le concerne. Je ne te comprends pas véritablement quand tu me parles de félonie, » continua-t-elle. Presque offensé. C'est le mot dont se servent les avocats, dit tristement Philippe. Je ne l'ai pas inventé. Puis, pour détourner l'entretien, il feignit d'aller donner quelques ordres à Phoebe. Pendant sa courte absence, La jeune fille avait rassemblé ses idées. Elle revint à la charge. Supposons qu'il l'envoie à York. Supposons qu'il passe aux assises. Quelle serait, dis-moi, sa pire chance? Sous le coup d'œil pénétrant qu'elle lui jetait en parlant ainsi, Philippe ne savait que devenir. « Ils peuvent, » dit-il à regret, « ils peuvent l'envoyer à Botany Bay. » Il savait, à part lui, qu'un dénouement encore plus sinistre était à redouter, et toute sa crainte était de le laisser entrevoir. Mais ce qu'il venait de dire allait tellement au-delà des appréhensions de la jeune fille qu'elle ne put se rien figurer au-delà. Devant cette seule idée que son père se trouvait en passe d'être condamné à la déportation, elle demeura muette d'horreur, les yeux dilatés, les lèvres pâles, et regardant toujours Philippe comme s'il l'eût fasciné, elle finit par se laisser tomber en balbutiant quelques paroles inarticulées sur un siège placé près d'elle. S'agenouillant aussitôt à ses pieds, commençant 20 phrases qu'il n'achevait pas, baisant sa robe dans un élan passionné, sans qu'elle écoutât aucune de ses paroles, sans qu'elle prît garde à aucun de ses gestes. « Sylvia » disait-il. « Sylvia !» Et encore fallait-il contenir sa voix pour ne pas éveiller la pauvre femme qui dormait en haut. « Ne déchire pas ainsi, ne déchire pas mon cœur. Écoute, Sylvia, je ferai tout ce qu'il est possible de faire, tout ce que j'ai pu mettre de côté, tout mon sang jusqu'à la dernière goutte, ma vie s'il le faut pour sauver la sienne. »«
La sienne ?»
reprit-elle, laissant retomber ses mains dans lesquelles elle avait caché son visage et cherchant à lire jusqu'au plus profond de son cœur.
« Qui parle d'attenter à sa vie ? Tu perds la tête, Philippe, je le suppose du moins. »
Elle eût bien voulu le supposer, mais, en somme, la triste vérité se faisait jour, car elle ne pleurait plus, elle ne tremblait plus, elle ne respirait presque plus, immobile comme la pierre. Cette heure fatale lui dérobait sa jeunesse.
« Tu penses donc qu'ils peuvent nous le tuer ? »
dit-elle, après une longue pause, parlant à voix basse et avec une sorte de solennité. Philippe détourna son visage sans pouvoir articuler un seul mot. Le silence redevint profond et dura quelque temps encore, interrompu seulement çà et là par les mouvements que se donnait Phoebe.
« Il ne faut pas que ma mère le sache, »
reprit Sylvia, du même ton que naguère.
« Mais, » dit Philippe, « pourquoi tout d'abord prévoir le pire ? La transportation est bien plus probable, et d'ailleurs, il peut être reconnu innocent. »
« Non, » dit Sylvia, comme si toute espérance lui était impossible, comme si elle lisait déjà la sentence fatale dans le livre de l'avenir.
« Ils le tueront, c'est certain. Oh, mon père ! Mon père !»
Et pour étouffer ses cris qu'elle ne pouvait contenir, elle enfonçait son tablier dans sa bouche, serrant en même temps la main de Philippe, et d'une force telle que cette étreinte, à la longue, devint un véritable supplice. Pour une pareille agonie, il n'avait pas de consolation, mais sans pouvoir s'en empêcher, et par le mouvement irrésistible qui nous pousse vers un enfant blessé, il se pencha vers elle, et d'un baiser tremblant, effleura sa joue. Elle ne le repoussa point. Probablement, elle ne s'était aperçue de rien. Phoebe entrait au même moment. Philippe, qui la vit, devina ce qu'allait penser la vieille femme, mais il lui fallut rappeler Sylvia plusieurs fois de suite au sentiment de la situation présente. Sa mère, lui répétait-il, attendait la boisson fortifiante que Phoebe venait de préparer pour elle.
« Allons, » dit Sylvia, « mais j'aimerais mieux affronter la présence d'un mort. Si elle me questionne, Philippe, que lui dirais-je ? »
Elle ne vous questionnera pas, répondit-il, si elle ne voit en vous rien qui l'étonne. Dites-lui d'ailleurs de s'adresser à moi. Je lui cacherai le plus longtemps possible ce qu'elle doit ignorer. Je m'y prendrai mieux qu'avec toi, Sylvia, continua-t-il avec un triste sourire, dans lequel se peignait une sorte de remords.
Ne te fais aucun reproche,
reprit la jeune fille, voyant qu'il regrettait d'avoir trop parlé.
C'est moi-même qui me suis attiré cet aveu. J'ai voulu la vérité à tout prix, sans savoir si j'aurais la force de la supporter. Maintenant, Dieu me vienne en aide, continua-t-elle d'un ton plaintif.
Dieu et moi, Sylvia, si vous me le permettez, je vous aime depuis bien des années, et il serait affreux pour moi de penser que cet amour ne peut en rien servir votre détresse.
Cousin Philippe,
répondit-elle avec cet accent immuable que sa voix avait eu depuis la terrible révélation
et où se trouvait la rigidité de ses traits devenus marbre. Tu es pour moi un véritable consolateur. Je ne saurais sans toi comment supporter la vie. Mais je ne puis me rattacher à aucune pensée comme celle dont tu parles. Je n'ai que deux êtres devant les yeux, celui qui vit encore et celui que la mort m'a pris. »